Mix. Félicitations à Dave Asselin qui va être du côté de l'Agora du Sport de Québec ce dimanche pour The Australian Pink Floyd Show, le spectacle qui va clore la saison 2025 du côté de l'Agora du Port de Québec. Fait que beaucoup de textos, mais c'est Dave Asselin qui est l'heureux élu. Audrey Pinchot vient de faire son entrée en studio. Le temps de vous faire une petite météo. C'est 16 degrés à Québec présentement. 21, c'est ce qu'on attend aujourd'hui. Alternance soleil-nuage. Demain, jeudi, 18 avec de la pluie. Mais après ça, c'est que du beau. À partir de vendredi, des températures qui vont tourner entre 20 et 25 en moyenne, je vous dirais. Puis pas mal juste du soleil jusqu'à mardi au moins. Fait que très bonne nouvelle de ce côté-là. Autre bonne nouvelle, Audrey Pinchot. On a nos billets pour MGK.
Yay!
Mais quoique, là, j'ai des petits reproches à te faire.
Ah ouais?
Hier, la démarche était très claire.
Oui, je sais. Ouais. Je sais.
Ouais, c'est ça, hein, parce
Max
que...
Max m'avait demandé d'être très à l'affût.
Puis je t'ai revenu te voir une minute avant. Hey Audrey, là, tu vas être prête là, si je te texte. Faut que tu me répondes vite.
Mais
tu m'as répondu 2 heures plus tard. Ouais. On n'était plus là.
T'as raison. Je te dois des excuses publiques à ce niveau-là. Je vais te répondre qu'on travaille. Hein. Fait que j'étais dans un meeting de travail. Ce qui fait que j'avais pas accès à répondre. Mais j'avais tellement confiance en toi. Je me disais, ton instinct va bien faire les choses. Tu m'abandonneras pas là-dedans. On va y aller ensemble.
Puis là, mon instinct m'a fait remplir ma carte de crédit. Parce que là,
Qu'est-ce que t'as fait, hein?
C'est parce que... Quand je suis comme rentré après la file d'attente, quand je suis rentré pour acheter mes billets, il y avait... Moi, je voulais absolument être au parterre. Il n'était pas question que je voie MGK pas du parterre.
Hey.
Les billets parterre étaient tous 700$. J'ai comme fait, je l'aime beaucoup, 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 mais pas pour
peut-être
700$.
Pas ce point,
fait que là, il me dit, garde, on va prendre des billets moins bons puis je m'arrangerai après. Fait que j'ai pris quand même de très bons billets à 150$ chaque. Comme première rangée, zone des jardins. Fait que t'es surélevé, t'as personne en avant de toi vu que t'es en première rangée. D'excellents billets. Puis là, je suis comme OK, parfait. 300$ total pour 2 billets. Audrey va être bien contente. Puis on va regarder le show ensemble. Mais c'est sûr que je regarde pas le show de là en bout de ligne. C'est sûr que d'ici le show, je me trouve des billets par terre.
Ouais.
Mais finalement, j'ai eu des billets par terre comme... 6 minutes et demie plus tard, ben, je suis retourné voir.
Fait que là, t'avais 4 billets, là.
Ouais. Fait que je suis retourné voir, puis là, il y avait des billets par terre, plus à 700$, c'était rendu 184. Fait que là, j'ai sauté dessus. Fait que là, j'étais comme pogné 4 billets.
T'es as-tu vendu?
Ouais.
Bon.
Fait
qu'on est correct.
Le prix que j'ai payé, là, hey, j'ai même fait 1,80 de profit.
Et tabarnouche.
Parce que j'ai dit à personne, hey, je t'ai vendu le prix que j'ai payé 300$, mais la réalité, c'est que je les avais payés 298,20.
C'est un profit avec quoi tu peux pas acheter grand-chose, là, mais tu sais, c'est un profit pareil.
Non, mais je suis content juste de m'en être débarrassé rapidement. Et là, ben, on va voir MGK du parterre. Fait que c'était le segment qui intéresse personne. Maintenant, Audrey, pour le segment qui intéresse les gens.
Hey, aujourd'hui, on se colle un peu à l'actualité, si tu le veux bien, Max. Vous avez dû entendre parler dans les derniers jours, dans les dernières heures, d'un candidat de Sam Ahmad, ex-candidat, je devrais dire, de Sam Ahmad, qui a eu des drôles de propos concernant l'itinérance à Québec. Un candidat dans Saint-Roch, ironiquement. Si vous n'êtes pas au courant, on parle de Napoléon Wu, qui est venu sur nos ondes hier matin expliquer son point dans Marceau le matin. J'ai envie, Max, peut-être de faire entendre un extrait aux gens là, qui ne nous suivent pas totalement pour nous remettre en contexte.
Moi, je voulais qu'Edmond sache que ce qui se passe à Saint-Roch.
Ouais.
Que... Il y a une culture d'itinérance, l'industrie de l'itinérance, où ils profitent de ces gens-là, puis ils font de l'argent avec ces gens-là.
Et pourtant, la plupart des gens qui travaillent pour ces organismes-là, c'est pas des gens qui gagnent énormément, vous le savez, c'est des gens de cœur, là.
Les gens de cœur, c'est des grunts, là, qui travaillent sur le terrain, là. T'as des directeurs, puis des assistants directeurs, là. Puis ils gagnent tout. Ils sont supposés d'exposer le salaire. Vous avez juste à regarder ça.
Je me permets juste un commentaire. Donc, pour vous, Éric Boulay, qui est directeur de la maison L'Aube-Rivière, il gagne trop cher, puis c'est pas une bonne personne, travaille pas pour les gens d'itinérance. C'est ce que vous êtes en train de dire.
Non, non. Je sais pas c'est quoi le salaire d'Éric, là, mais je parle des organismes là, plus petits, là.
Okay,
Éric, il a fait ses preuves.
Donc, les organismes communautaires ne travaillent pas pour l'itinérance, ils travaillent contre l'itinérance pour pouvoir continuer à avoir des subventions. Parce que moi, je viens du domaine communautaire. Là. Ça n'existe pas, ce que vous dites. Là.
Oui, ça existe. Ça n'existe pas
ce que vous dites, monsieur.
Évidemment, ce sont des propos qui font réagir, qu'on soit en accord ou pas. Le but, c'est de ne pas faire le débat ce matin. Là. Mais on a reçu sur nos réseaux sociaux plusieurs messages suite à la diffusion de cet extrait-là, dont celui d'une auditrice qui s'appelle Roxane Bédard-Mercier. Je prends le temps de lire ce qu'elle nous envoyait. Elle nous envoie « Salut, en tant que doctorante en psychologie qui fait sa thèse sur la question de l'itinérance à Québec, il me semble que les spécialistes du sujet mériteraient peut-être de s'exprimer sur la question. Je comprends l'intérêt d'inviter M. Wu, vu les récents événements et l'actualité dans la campagne municipale, mais ses propos encouragent la haine, à mon avis, surtout considérant le climat actuel. Bref, si vous souhaitez accorder une certaine tribune pour donner un deuxième regard qui est bien plus informé sur la question, je suis convaincue que plusieurs personnes à Québec seraient intéressées à se faire entendre. C'est un enjeu majeur de la campagne cette année. » Et c'est là que je me suis dit, ben on l'invite dans l'open mic.
L'open mic. Just in time for open mic. Dans Le Point de Max, c'est l'heure de l'open mic avec Audrey Pinchot.
First time I tried an open mic, I knew.
Je suis vraiment contente qu'on puisse lui parler ce matin parce que oui, il y a mille et une personnes qui auraient pu se présenter en studio aujourd'hui pour aborder le sujet. Roxane Bédard-Mercier, elle est étudiante au doctorat en psychologie à l'Université Laval. Elle fait sa thèse sur l'itinérance. Elle est aussi professionnelle de recherche à l'UQTR. Elle a fait aussi une maîtrise sur la manière dont les politiques sont faites au Québec en lien avec la pauvreté. Des politiques qui sont organisées selon elle pour amener des gens peut-être encore plus vers cette pauvreté-là. Bref, c'est une fille qui en a long à dire et on se devait de lui passer le micro. Je trouve ça le fun d'avoir l'opinion, je vais dire, d'une simple citoyenne. Je vais l'exprimer de cette façon-là.
Un plus beau CV que moi, là.
Que moi aussi. Roxane, bon matin.
Salut.
On est vraiment contents que tu sois là aujourd'hui. J'ai peut-être envie de te demander, pour commencer, de réagir aux propos de M. Wu. Tu viens de réentendre l'extrait, un extrait qui a fait réagir énormément nos auditeurs, là.
Bien, écoute, c'est la première fois que j'entendais au complet. J'avais juste entendu celle que vous avez distribuée sur votre page Facebook. Puis, ce que je trouve plate, c'est que, tu sais, franchement, il y a quelque chose là-dedans que je voulais être quand même avec M. Wu, parce que, tu sais, si on regarde, par exemple, le salaire du PDG de Centraide, tu sais, on comprend ce qu'il veut dire par « il y a des gens qui... »
Absolument. Il n'y a pas tout qui est faux, là.
C'est ça. Mais en même temps, tu sais, il ne fait pas de différence. Fait que, tu sais, là-dedans, il embarque tous les organismes locaux à Québec, comme Lauve-Rivière, Projet Lune, Squad Basseville, La Dauphine, tu sais, tous les organismes qui viennent en aide directement, là, sur le plancher des vaches avec les personnes... Il fait pas vraiment de différence avec eux.
Puis là, le problème un peu, selon toi, parce que ce monde-là, on va se le dire, il gagne pas des salaires de 200 000 piastres
vraiment
par année.
Vraiment
pas, au-delà de ne pas gagner ce salaire-là, j'ai pas jasé avec énormément de ces intervenants-là, mais pour avoir jasé souvent à Éric Boulay de Lauve-Rivière, je veux dire, dans aucun monde... Puis tu sais, je comprends, le monsieur Wu parlait pas de lui en particulier, puis ça, je le comprends, puis je pense qu'il faut faire la nuance, mais dans aucun monde, tu peux parler à Éric Boulay de Lauve-Rivière puis te dire, lui, il fait ça pour le cash, il fait pas ça pour les bonnes raisons. Je veux dire, des Éric Boulay, il doit en avoir des dizaines et des dizaines dans le milieu, là.
Ben oui, puis c'est, tu sais, je pense que la majorité des directeurs généraux d'organismes comme Lauve-Rivière, c'est des gens comme lui, là.
Est-ce que tu penses que des propos publics comme ceux de M. Wu, ça a des conséquences sur la perception de l'itinérance? Parce que c'est toujours un peu le danger, là. Tu sais, ce qu'on dit, veut pas, dans les médias, on a la chance d'avoir un micro, ce qu'on dit publiquement. Tu sais, les gens écoutent ça, puis veut pas, se fient des fois un peu sur ça pour se faire une tête.
Bien, absolument. Puis, tu sais, je pense que ça fait passer un peu de l'incompréhension de la situation vers plus des émotions haineuses, mettons, mm-hmm. je dirais.
Ta thèse.
Oui.
Tu as choisi le sujet de l'itinérance.
Oui.
Parle-nous-en donc un peu. On dirait que je suis curieuse de savoir le pourquoi. Qu'est-ce qui t'a mené là?
Bien, comme tu disais, j'ai fait ma maîtrise sur le sujet des politiques sociales au Québec. La façon que ces politiques-là peuvent souvent apporter les personnes vers une situation de précarité bien plus que ce que les personnes étaient avant d'arriver, par exemple, à l'aide sociale. Puis des fois, les situations se dégradent, puis il y a comme un engrenage qui se fait vers l'itinérance. Fait que je suis comme arrivée au point, avant la fin de ma maîtrise, où j'arrivais vers les situations d'itinérance, puis j'en traitais pas. Fait que c'était comme une suite logique pour moi de continuer mon doctorat avec ça, là.
T'as peut-être pas tous les chiffres, toutes les données, t'es en train de faire cette thèse-là, mais à date, ça dit quoi? Parce que là, tu te concentres sur la ville de Québec, là.
Oui. Mais en fait, moi, c'est que je me questionne beaucoup sur l'identité des jeunes, parce que, tu sais, je m'intéresse aux jeunes, comme 18 à 25-30, mettons. Puis je me questionne sur comment ils se bâtissent une identité à travers leur situation d'itinérance, parce que, tu sais, quand tu passes d'un centre jeunesse à la rue, tu sais, du jour au lendemain, je veux dire, clairement, t'as pas les mêmes référents que, mettons, moi, que, tu sais, j'habitais chez mes parents, j'étais au cégep, je vivais ma best life, puis mon plus gros problème, c'est d'avoir assez d'argent pour aller au Starbucks le samedi, là,
t'sais. C'est carrément ça, oui, on n'a pas les mêmes enjeux, là.
C'est ça, tandis que, tu sais, une personne qui vit sa jeunesse dans la rue, Le rapport qu'elle a au travail, le rapport qu'elle a avec l'école, avec ses amis, avec sa famille, est complètement différent d'une personne qui est logée. Puis c'est un peu ça qui m'intéressait parce que, tu sais, si on maintient cette situation-là, l'âge adulte, c'est une période où on se construit notre identité, puis après ça, tu sais, ça reste pour longtemps, là, fait que...
Puis en même temps, c'est encore plus intéressant parce que j'ai l'impression que on a peut-être tendance à oublier qu'il y en a des plus jeunes dans la rue. T'sais, on dirait qu'on a comme le stéréotype du bonhomme ou de la bonne femme qui sont là depuis toujours. Mais la réalité, c'est qu'il y en a des 20, 25, 30 ans qui sont dans la rue. Puis justement, à 18 ans, à un moment donné, ils n'ont plus de place. Puis ça commence de même. Là. C'est pas juste du monde de 45 dans la rue.
Bien, absolument. Puis, tu sais, il y a même Squad Basseville qui est un organisme en itinérance spécialisé pour les jeunes. Tu sais, il y en a moins de 18 ans. Il y en a 16, 17, il y en a. Là.
C'est fou, ça, quand tu y penses. Hein? Ouais. Tu sais, nous autres, on était dans le confort. Là, à 15, 16, 17 ans chez nos parents, on se posait pas trop de questions. Là.
Ouais,
c'est quoi ta démarche, mettons, pour ta thèse? Est-ce que tu vas vers ces jeunes-là? Tu passes du temps dans la rue? Tu peux peut-être juste nous décrire un peu comment tu détermines finalement les résultats?
Oui, ben moi, en fait, ce que je prévois faire, tu sais, là, je suis encore dans ma première année, là, je suis vraiment débutante, mais ce que je prévois faire, c'est aller faire des entrevues dans les organismes avec ces jeunes-là, analyser mes données, puis retourner les voir pour faire hey, est-ce que ce que j'ai analysé, ça fait du sens pour vous? C'est-tu vraiment ça que vous vouliez dire? C'est-tu cohérent avec votre vécu? Puis pour faire ça, bien, cet été, je me suis promenée, je suis allée visiter quasiment une dizaine d'organismes à Québec pour savoir un peu comment eux voyaient l'éthique en itinérance, tu sais, comment approcher ces personnes-là de manière sécuritaire pour elles. Puis
t'allais parler aux riches là, dans les organismes, là, ceux qui font du cash faire, là, sur le dos de l'itinérance.
Puis qu'est-ce qu'ils t'ont dit, ces gens-là?
Ben, tu sais, en fait, moi, c'était plus une démarche comme c'est quoi que vous pensez qui est la meilleure façon de les approcher, par exemple, comment les interpeller, parce que, tu sais, la majorité des jeunes dans la rue ne s'identifient pas comme itinérants. Il ne faut pas dire, mettons, hey, t'es en situation d'itinérance parce que. Pour eux, ça ne colle pas à leur identité. Fait que juste les termes à utiliser, c'était un de nos sujets. Quel genre de compensation donner pour la participation? Parce qu'il faut donner une compensation comme pour toutes les recherches. Quel genre de questions leur poser pour qu'ils se sentent le plus en sécurité possible? Ou faire les entrevues? Parce que moi, je ne vais pas amener du monde à l'université où ils ne vont pas nécessairement se sentir à l'aise. C'est moi qui me déplace.
Dans leur élément, ouais. Ouais. Quel genre de questions, justement? C'est quoi le type d'approche que tu peux utiliser? Je suis curieuse. Parce que même nous, on se les pose, ces questions-là. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Il y a beaucoup de gens qui n'osent même pas dire bonjour aux personnes en situation d'itinérance parce qu'ils ont un profond malaise de la réaction possible. Ou de comment justement aborder, coupable, ça m'est déjà arrivé, là. Fait que je suis comme curieuse de savoir qu'est-ce qu'on t'a conseillé.
Bien, tu sais, d'emblée, je dirais que, tu sais, toutes les personnes qui participent à la recherche, c'est du monde qui sont, tu sais, qui veulent participer, là. C'est, tu sais, je veux dire, je force pas personne, fait que généralement...
C'est consentant, là.
Oui, c'est ça, c'est super consentant et tout, puis ils peuvent sortir à n'importe quel moment. Mais comme moi, je me concentre plus sur l'identité, j'essaie de leur demander un peu, tu sais, définir un peu des questions en lien avec leur estime d'eux-mêmes, tu sais, c'est quoi, mettons, leur projet qu'ils voient à court terme, à long terme, tu sais, mettons, quel genre d'emploi ils souhaiteraient avoir après être sortis de la rue, des choses comme ça pour voir un peu comment on peut essayer de les accrocher à des choses positives, mettons, pour qu'une fois qu'ils soient logés, ils ne retombent pas dans l'itinérance puis que ça devienne une itinérance chronique, finalement.
Pour leur donner de l'espoir, en fait, c'est un peu ça, là, parce que ça doit être excessivement difficile. Tu n'es pas censé être encadré en centre jeunesse pour pouvoir voler de tes propres ailes après. T'sais, on dirait que je me demande ça sert à quoi, sinon j'ai la misère à comprendre comment il y a autant de jeunes qui sortent des centres jeunesse puis qui se ramassent dans la rue.
Oui. Bien, tu sais, en fait, il y a beaucoup de centres jeunesse qui, tu sais, du jour au lendemain, en fait, de 18 ans moins un jour, tu es dans le centre jeunesse puis à 18 ans pile, tu sais...
T'es dehors,
là. Fait que, puis tu sais, pour quelqu'un qui a été en centre jeunesse pendant une bonne partie de sa vie, puis c'est pas comme ça, tu sais, je veux pas généraliser, mais il y a plusieurs jeunes qui ont leur expérience, c'est que, tu sais, quand tu as été pendant plusieurs années à te faire dire « Hey, faut que tu te lèves à 6h30, faut que tu manges à 8h, faut que tu fasses ton lavage à 8h30, faut que tu prennes ta douche à 9h, puis à cette heure-là, tu vas aller à l'école, après ça, tu reviens, tu fais le ménage. » Tu sais, il y a quelque chose là-dedans qui est tellement encadrant que le jour où ils sortent, pour eux...
T'as plus de repères pantoute,
puis ça finit que la rue, ça finit quasiment par être comme... ils voient ça d'un bon œil, là, tu sais, parce que c'est comme tellement la liberté qu'ils n'ont jamais eue. Qu'ils ont le genre de lune de miel, mettons, comme pour prendre les propos de certains organismes là, que j'ai rencontrés, qui ils vivent un peu quelques mois en étant comme « Hey, c'est le fun, je me sens vraiment 100% libre puis autonome. » Puis finalement, après ça, ils frappent un mur puis ils se rendent compte que, tu sais, ils se sentent pas en sécurité puis leurs besoins sont pas comblés.
Ben, mais c'est qu'il y a pas de filet au bout de ce... Ouais. Tu sais, dans le sens qu'on l'a tous, cette espèce de lune de miel-là, mettons, quand on part de chez nos parents, on est libre pour la première fois. L'affaire, c'est qu'on a des parents qui restent à la maison si jamais on a un problème, tu sais. Ouais. Mais on les prépare pas à ça. Sachant, justement, qu'à 18 ans plus un jour, ils sont dehors, on n'essaie pas de trouver des je sais pas moi, des accros, des possibilités, des gens qui peuvent les accompagner.
Ben, tu sais, ça, je te dirais que ça sort un petit peu de mes connaissances, là, mais... il y en a là, des super bons intervenants dans les centres de jeunesse, puis je veux pas, vraiment pas dire que c'est ça pour tout le monde. Mais des fois, surtout pour les jeunes, mettons, qui ont minimalement des problèmes de comportement, ben, ça peut être vécu quand même assez difficilement. Là, puis, ouais.
Puis souvent, c'est le système au-delà des intervenants. Ouais, c'est comme souvent, on chiale contre le système de santé, mais on comprend bien que ceux qui travaillent dans le système de santé, ils font leur possible.
Ils font la belle job, ben oui. Les programmes et les ressources qui sont disponibles pour eux à la sortie, est-ce que tu sais, c'est quoi? Y a-tu des... j'imagine qu'il en existe, là?
Ben, tu sais, il y a l'aide sociale, là.
OK, fait que c'est ce genre de programme-là. Là. C'est pas genre un... Parce que moi, dans ma tête, on dirait que je me disais, il y a peut-être des organismes, justement, qui sont faits pour ça, les accompagner à partir de ce moment-là.
Ouais, il y en a, mais tu sais, je veux dire, les ressources sont pas tant disponibles. Tu sais, c'est sûr que, mettons, un jeune, demain matin, qui veut avoir un logement, il y en a pas, là. Tu sais, un logement subventionné, tu sais, qui arrive dans son organisme, puis qui est comme, hey, donne-moi une clé, tu sais, ça existe pas, là. Mais, tu sais, c'est plus des ressources, mettons, pour les maintenir, tu sais, leur donner de la bouffe, leur donner du linge, leur donner un hébergement d'urgence. C'est comme des ressources pour les maintenir comme dans leur survie, finalement, là. Mais, tu sais, au-delà de ça...
Les besoins de base,
c'est
là.
C'est ça, les besoins de base.
Mais l'encadrement est quand même pas là. Ils ont pas de ligne directrice, je veux dire, là.
Ben plus ou moins, là. Tu sais, il y en a des... Puis après ça, il faut que la personne veuille aussi être encadrée.
Mais c'est un peu ça. Tu sais, t'as parlé tantôt d'itinérance chronique. Y a des gens avec qui il n'y a rien à faire?
Ben tu sais, je pense que, mettons, viser l'itinérance zéro... pour moi, c'est quelque chose d'irréaliste, mettons, parce qu'il y a des gens que, quand c'est la rue qu'ils ont connue depuis qu'ils sont tellement jeunes, depuis qu'ils ont genre 12 ans...
C'est leur sécurité.
C'est ça, c'est leur sécurité. T'sais, autant que nous, notre sécurité, ça peut être notre logement. Fait que, t'sais, après ça, comment aider ces personnes-là à se sentir comme leurs besoins de base, moi, je pense que c'est nécessaire. Mais ouais.
C'est drôle parce que le maire Marchand, je pense... C'est vraiment planté en utilisant ce terme-là qui colle à la peau depuis 4 ans. S'il avait utilisé d'autres termes peut-être un peu plus réalistes, j'ai le sentiment qu'on aurait peut-être moins tendance à être tapé sur la tête parce qu'il a certainement pris des décisions pour tenter d'aider.
Ben,
c'est encore son intention.
T'sais, moi, de dire que tu vises l'itinérance zéro, j'ai pas de trouble avec ça. L'affaire, c'est qu'on dirait que pour Bruno Marchand, il persiste à dire que c'est possible et qu'on va y arriver... Moi, c'est là que je débarque un peu. Hey, tu peux dire que tu le vises parce que c'est en le visant que tu vas améliorer la situation. Ça, parfait, j'embarque.
Je dirais même pas ça, Max. Moi, je dirais moins possible. Oui, mais c'est parce que tu vises zéro. C'est irréaliste. C'est comme si je te dis, je vise à être Kardashian demain matin. C'est irréaliste.
Ben, c'est irréaliste, mais tu peux t'approcher. Tu peux viser la lune pour atterrir dans les étoiles.
Oui, mais je trouve que dans le rôle qu'il a, tu peux pas te permettre d'être aussi rêveur. Faut que tu sois réaliste pour que les gens croient en ce que t'amènes. Puis l'affaire, c'est que dans les dernières années, il y a pas une année où les cas d'itinérance ont baissé, mettons. Il y a pas une courbe qui a baissé qui nous donne peut-être un espoir que ça se redirige éventuellement. Ça fait que monter. Puis on parle de Québec, mais je veux dire, moi, ce qui me frappe le plus, c'est Trois-Rivières. T'sais, Montréal, on entend parler. Québec, on entend parler. Hey, Trois-Rivières,
capoté.
Hey, avez-vous mis les pieds là récemment? C'est complètement fou.
Le
là.
Moins possible, moi, Trois-Rivières.
C'est vraiment moins pire que ça a déjà été. Bon. Le centre-ville est rendu super beau, mais le point, c'est que le centre-ville est aussi rempli d'itinérants.
C'était pas le cas avant.
Ben non.
Ben là, Rimouski, ça a l'air. Quand il y a des problèmes d'itinérants, c'est à Rimouski.
Il y en a au Saguenay. Voyons.
Ouais. Non, terrible.
Mais
non,
mais ça n'a aucun sens. Ça fait que monter. Fait que d'entendre des gens qui sont censés nous rassurer, nous amener à être une meilleure ville, dire qu'on vise une itinérance zéro, je pense que ça en décourage certains parce que c'est pas accessible dans la tête de plusieurs. Là.
Ben oui, puis en plus, j'ai l'impression que viser l'itinérance zéro, il y a quelque chose là-dedans qui est un peu... tu sais, je veux dire, c'est irréaliste. Fait que, on dirait que le but, c'est comme de cacher finalement l'itinérance qui est visible parce que, tu sais... C'est pas juste l'itinérance visible aussi qui doit être adressée. Là. Il y a, pour chaque personne, mettons, qu'on voit dans la rue, il faut dire qu'il y en a peut-être 3 qui sont en itinérance cachée là, à Québec. Fait que...
Qu'ils ne l'assument pas nécessairement, qu'ils peuvent dormir dans leur auto, qu'ils n'ont plus de logement.
C'est ça,
qu'ils
se promènent de famille en famille, puis qui épuisent leurs ressources comme ça, qu'ils vont dormir chez les amis, ils vont dormir dans leur auto, ils vont dormir un peu, ils louent des chambres de motel, puis finalement, ils épuisent leurs ressources comme ça. Là.
C'est vrai qu'on a une tendance à voir l'itinérance comme le monde qui dorme ses bancs de parc, mais tu sais, on le dit souvent, le visage de la pauvreté a énormément changé aussi au Québec. Prends juste la Bouchée généreuse comme exemple. L'année passée, on est allé faire une petite matinée de bénévolat à la Bouchée généreuse à la suite du combat de lutte avec la NSPW qu'on avait fait pour ramasser des fonds. Puis moi, ça m'a rentré dedans, parce que dans le fil, il y a du monde comme toi puis moi. Il y a des gens que tu n'aurais jamais pensé physiquement, visuellement comme ça, là, à première approche, qui auraient eu besoin d'une aide alimentaire ou d'une aide quelconque. Fait que ça a énormément changé. Pourquoi c'est autant difficile de sortir de la rue?
Bien, c'est une grosse question. Tu sais, je te dirais que... tu sais, pour moi, c'est sûr que les ressources... Mettons, tu sais, on a l'impression qu'on met beaucoup d'argent dans les ressources, mais tu sais, c'est comme je disais tantôt, c'est souvent des ressources pour maintenir en survie. Après ça, le fait d'avoir... Tu sais, tu peux pas, mettons, prendre une personne, la mettre dans un logement, lui donner une job, puis dire « arrange-toi avec tes affaires ». Mm. Tu sais, clairement, ça marchera pas. Je veux dire, il y a des étapes à faire avant pour intégrer des rôles sociaux comme un travail, puis tout ça. Puis après ça, tu sais, je me demande à quel point un employeur va engager une personne qui a un trou de 5 ans dans son CV. Il y a ça aussi. Mais, puis tu sais, faut tout le temps garder en tête qu'il ne faut pas non plus faire vivre un échec à la personne qui retourne dans la rue, puis que ça soit encore plus difficile de la réinsérer, là.
T'as raison. En passant, pour ceux qui viennent de joindre à nous, on parle avec Roxane Bédard-Mercier, qui est étudiante au doctorat en psychologie de l'Uni Laval. Elle fait sa thèse sur l'itinérance, puis elle nous a écrit à la suite de l'entrevue que vous avez fait, Max, hier, avec M. Wu, sur ses propos, justement, quant à Saint-Roch, à l'itinérance. Pour ta maîtrise, t'as analysé le fonctionnement des politiques qui viennent en aide aux personnes en situation de pauvreté au Québec, principalement l'aide sociale. Parle-nous donc un peu des politiques en place. Je trouve ça super intéressant, parce que ce que t'amènes, c'est le fait qu'au final, ça nous rend peut-être un peu plus pauvres même qu'on pense.
Oui, bien en fait, moi je me suis surtout concentrée sur l'aide sociale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'aide sociale, tu sais, quand t'arrives là, mettons, il n'y a pas de médecin pour t'évaluer puis savoir si t'es apte au travail. Là, t'es considéré d'emblée apte au travail. Après ça, c'est à toi de démontrer que t'as des diagnostics ou d'aller en chercher. Puis là, on peut se dire que c'est difficile, surtout pour les troubles de santé mentale, d'aller chercher un diagnostic d'un psychiatre là, quand même, ou d'un médecin spécialiste. Fait que pendant tout ce temps-là, tu sais, ces personnes-là sont considérées comme aptes au travail. Puis il y a certains programmes, surtout pour les jeunes, qui est par exemple Objectif emploi, qui est fait pour que, dans le fond, s'ils ne s'engagent pas dans une démarche d'insertion, que ce soit d'aller essayer de trouver une job ou de faire des études qu'on va avoir décidées pour eux, évidemment, l'aide sociale est coupée. Là. Fait que, tu sais, pour des personnes qui ont des problèmes de santé, c'est vraiment... c'est vraiment difficile de se faire, mettons, pousser de même vers des jobs un peu random qu'ils n'ont pas choisi, mettons. Puis après ça, tu sais, souvent, mettons, les employeurs vont recevoir une subvention du ministère de l'Emploi pour recevoir ces personnes-là. Ils vont prendre la subvention pendant les 3 mois, puis après ça, ils vont mettre la personne à la porte.
Puis ça recommence.
Puis tu sais, c'est l'employeur qui bénéficie de ça, mais la personne, elle, qui se fait renvoyer chez elle, elle retourne à l'aide sociale. Après ça, elle se fait renvoyer dans un autre job. Après ça, elle retourne à l'aide sociale. Tu sais, avoir un cercle comme ça, je pense que tout le monde est capable d'imaginer que ça a vraiment beaucoup d'impact sur l'estime de soi-même. Là,
Oui, puis juste sur ton... Tu sais, pensons à nos jobs. Là, si on est tout le temps envoyé dans des jobs qu'on n'aime pas faire, puis que t'es... Il y a du monde en ce moment qui déteste leur day-to-day à cause du travail. Fait qu'imagine quand c'est ça constamment, puis t'es un peu pris dans ce ping-pong-là, je veux
dire.
Ben
oui, puis tu te fais dire que, tu sais, c'est ça parce que sinon, je veux dire, tu te fais couper ton aide financière. Là, fait que...
Y a-tu mieux à faire? J'imagine que la réponse est oui. La vraie question, c'est plus comment on peut faire mieux tout le temps. Parce que, tu sais, je pense qu'on peut comprendre le but de cette démarche-là, c'est que c'est en bout de ligne de les aider puis qu'ils soient en mesure éventuellement d'être sur le marché du travail puis de faire leur vie tout seul. Je pense que le but est quand même louable. Comment on peut garder ce but-là, mais en les aidant davantage au départ?
Bien, moi, je pense que dans la vie, tu sais, tout le monde peut arriver à un moment qu'on a besoin d'une aide financière, tu sais, surtout quand on pense à des personnes qui n'ont pas de famille pour les aider financièrement ou des choses comme ça. Puis, tu sais, je pense que ce serait correct de leur donner un break sans nécessairement les obliger demain matin que si tu as besoin d'une aide financière, il faut que tu sois dans une démarche active, là, mettons. Là, je veux dire, tu peux avoir des choses à gérer, tu peux avoir un deuil que tu vis, tu peux venir te faire éviter ton logement, tu peux vivre plein d'affaires. Fait que je pense que leur donner un break, ce serait déjà la base. Puis là, c'est sûr que je me ferais pas d'amis en disant ça, mais tu sais, le chèque d'aide sociale, il est à 50% en dessous du seuil de la pauvreté. Là. Fait que tu sais, il y a personne qui peut. Je veux dire, tu peux pas compter là-dessus pour garder ton logement là, s'il t'arrive quelque chose. Là, puis.
C'est pas assez, autrement dit.
Ben non, là, vraiment.
Je pense que les gens aiment pas quand on parle de bien-être social parce que pour eux, on a la fameuse définition un peu
Du BS. Là.
Oh, oui. Le BS qui en profite du système, mais il y a vraiment des gens qui en ont besoin pour vrai. Roxane Bédard, merci. Avant de te laisser aller, j'ai envie de te demander comment tu vois ça, les solutions potentielles pour l'itinérance à Québec. C'est ton sujet de thèse en ce moment. Puis tu as entendu les propos de Napoléon Wu qui pense qu'on en donne trop, en fait. Aux itinérants, ils en parlent quasiment comme si c'est un resort. Là, on les nourrit, on leur trouve des places où dormir. Comment, selon toi, on pourrait s'en sortir? Parce que visiblement, les choses qu'on fait depuis une couple d'années, ça ne fonctionne pas.
Bien, tu sais, je pense que c'est parce qu'on met beaucoup d'argent, mettons, dans les ressources de survie, comme tu disais tantôt, dans les hébergements d'urgence, les soupes populaires, les vêtements, les logements. Mais au-delà de ça, ce qui fait qu'une personne se ramasse en itinérance, c'est le fait qu'on a un filet social qui est extrêmement mince. Là. Mm. Le fait, justement, que le chèque d'aide sociale il est comme à 50% en dessous de la pauvreté, on vient encore de couper dans l'IVA que, ben, dans les dernières années, que les personnes se ramassent qu'ils ont juste 3 ans plus 2 ans de réinsertion après. Avant, c'était à vie l'hiver. Fait que ça aussi, ça, je pense qu'on va voir les répercussions de ça. Fait qu'à mon avis, je pense que ça part par augmenter le filet social. Puis, ben là, comme je disais, je me ferais pas d'amis avec ça, mais tu sais, je pense que le chèque d'aide sociale mériterait d'être augmenté. Puis, tu sais, on bénéficie tous de ça en bout de ligne, là, parce que économiquement, c'est vraiment mieux d'intégrer les personnes que de les laisser vivre dans la pauvreté parce que ça coûte extrêmement cher la pauvreté au système de santé. Là.
Roxane Bédard, merci. Ça a vraiment été un plaisir de te recevoir dans l'Open Mic ce matin, d'avoir ton avis externe sur tout ça. Moi, tu vois, je préférais t'avoir toi qui est étudiante en ce moment au doctorat en psychologie à l'Uni Laval, qui fait sa thèse sur l'itinérance, qui est jeune, qui a une vision finalement sur peut-être le futur qu'on a de ce problème-là, que n'importe quel autre spécialiste qu'on entend souvent dans nos médias. Fait que merci d'avoir pris la peine de te déplacer en studio.
Mais ça me fait plaisir. C'est vraiment le fun.
Audrey, as-tu entendu ce matin le pit stop avec Denis dans Marceau le matin?
Non, je l'ai manqué. Tu t'es encore fait écœurer?
Non, ça a été un beau moment, puis on s'est félicité de ça à la fin. Et je salue Denis. On est parti de la grosse controverse des Tylenol puis de l'autisme de Donald Trump.
Okay? Oui.
Mais ça a mené à un très beau moment où Denis s'est ouvert sur le diagnostic de TSA de son petit gars.
Oui, du plus jeune.
Puis je vous le fais entendre ce moment-là.
Oui, c'est ouvert sur ça.
Ouais.
Wow.
Puis même lui, en sortant, il était pas sûr de ce qu'il venait de vivre parce que je pense qu'il n'en avait jamais parlé.
Non.
Puis ça a vraiment donné un beau moment. Puis je vous le fais entendre après la pause. Il y a aussi Pascal CV qui s'en vient. Le Point Max.